France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Sommes-nous dans une période de recul, de reflux dans l'écho et la traduction qui sont données aux théories féministes et aux droits des minorités? Et lorsque nous parlons de théories féministes au pluriel, qu'est-ce qui les lie fondamentalement entre elles? Qu'est-ce qui lie les écoféminismes au féminisme intégral de Madeleine Pelletier, figure de la Troisième République? Qu'est-ce qui rapproche les féminismes noirs des enjeux queer? Hypothèse tangible, il s'agit peut-être de la question du corps. Mais alors comment fonder des philosophies, des pensées à partir du corps? Comment partir de l'expérience et du récit de soi pour aller au-delà de soi? Et bien pour nous éclairer ce soir, une invitée, Camille Froidevaux-Métry. Bonsoir. Vous êtes philosophe, professeur de sciences politiques, vous êtes romancière et vous avez dirigé l'ouvrage collectif qui paraît aux éditions du Seuil, ouvrage intitulé Théorie féministe. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir.
Je veux protéger les gens. Je veux protéger les femmes de notre pays. Monsieur, ne dites pas cela. Pourquoi ? Nous pensons que c'est très inapproprié de votre part de dire cela. J'ai répondu, pourquoi ? Je suis président. Je veux protéger les femmes de notre pays. Monsieur, je pense simplement qu'il est inapproprié de votre part de dire cela. Eh bien, je vais le faire, que les femmes le veuillent ou non. Je vais les protéger. Je vais les protéger des migrants qui arrivent. Je vais les protéger des pays étrangers qui veulent nous frapper avec des missiles et bien d'autres choses encore.
Il va protéger les femmes, Donald Trump, que les femmes le veuillent ou non d'ailleurs, et contre les migrants qui arrivent. Comment est-ce que vous analysez, décortiquez cette pensée, entre guillemets, Camille Froidevaux-Métry?
On a là la relance d'une rhétorique, mais aussi surtout d'un programme typiquement patriarcal qui définit les femmes par une condition de soumission, d'infériorité, de vulnérabilité, qui en fait des individus qui auraient besoin d'hommes pour les protéger, notamment contre des agressions sexuelles qui seraient perpétrées par des personnes immigrées. C'est malheureusement ce qu'on regarde aujourd'hui avec une espèce d'effroi sidéré, c'est-à-dire une espèce de lame de fond patriarcale qui déferle sur les États-Unis. Ça date pas seulement de cette réélection de Trump, ça fait quelques années déjà. Et moi, ce qui m'inquiète singulièrement, c'est que nous en avons quelques prémices ici même aussi en Europe.
Je cite Camille Froidevaux-Métry, un extrait de l'introduction de votre ouvrage collectif Théorie féministe au pluriel, je vais le redire. L'histoire féministe se caractérise par des phases cycliques de reflux. Ce fut le cas à partir des années 1920, après la conquête des droits civils et politiques, puis à nouveau à partir des années 1980, après la conquête des droits reproductifs. À chaque fois, dans le sillage de ces atteintes portées aux femmes, c'est une escalade autoritaire que nous avons assisté, que ce soit dans sa version fasciste ou sa version néolibérale. Fin de citation. Dans le fond, à chaque progrès succède sa période de reflux, de distanciation même.
Oui, mais ce n'est pas que cela. C'est-à-dire que s'il ne s'agissait, j'allais dire, que de la silenciation des femmes, s'il ne s'agissait que d'exiger d'elles qu'une fois quelques droits obtenus, elles retournent à leur place, immobiles et silencieuses, ce serait déjà énorme. Mais ce qui est encore plus grave, de mon point de vue, c'est que, selon moi, ce n'est pas un hasard, ces phases de silenciation, et je pense que nous sommes hélas en train d'en vivre une nouvelle, sont concomitantes du développement et même de l'enracinement de projets politiques conservateurs, réactionnaires, voire fascistes. Et il y a un lien évident entre ces deux phénomènes. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait un hasard, c'est même pas du tout un hasard si, parmi les premières mesures prises par Trump, il y a des mesures qui visent les minorités de genre, mais aussi les femmes. Il y a quelque chose de fondamental pour un programme conservateur qui entend, sur le plan social, réhabiliter une vision, notamment traditionnelle, de la famille. Il y a quelque chose de crucial à enclencher sur la façon dont on peut faire rentrer, enfin, une fois encore, remettre les femmes à leur place et faire taire les minorités qui réclament des droits.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec la notion même de backlash, de retour de bâton, cette idée que, dans le fond, la montée de l'extrême droite, le reflux conservateur serait presque la faute, j'allais dire, des féministes, des militants, de celles et ceux qui auraient porté des idées progressistes?
Alors, je ne le dirais pas en ces termes, mais en effet, il y a un lien. ça m'arrive d'interpréter ces mouvements dans les termes de la panique. Il se trouve que les personnes LGBTQI sont celles qui, le plus directement et de la façon la plus inventive, d'une certaine façon, s'attaquent au socle même de tout le système patriarcal, à savoir cette fameuse famille hétéronormée avec ce qui accompagne cette conception, à savoir, pour ce qui concerne les femmes, une triple injonction à la disponibilité sexuelle, à l'hétéroconjugalité et à la maternité obligatoire. Or, les personnes trans, intersexes, gays, lesbiennes, queer, non-binaires, travaillent toutes, même sans forcément en avoir une conscience très aiguë, c'est pas le sujet, mais les propositions de vie qui sont les leurs, les théories qu'elles portent et les mouvements qu'elles animent, ébranlent précisément ce socle. Or, je crois que c'est quelque chose dont les personnes politiques qui portent des projets conservateurs ou réactionnaires ont tout à fait conscience. C'est ainsi que j'interprète, par exemple, le grand mouvement de la Manif pour tous en France après le mariage pour tous. Ces personnes savent, en fait, que quelque chose de crucial a été touché et que si ce socle se détruit ou s'affaisse, c'est tout le système qui est ébranlé et qui ouvre la voie à une transformation.
Donc on est à chaque fois dans un combat anthropologique, c'est cela qui se joue, c'est même le rapport, j'allais dire, à la façon d'être ensemble et le lien que l'on a tissé depuis, j'allais dire, certains diraient la nuit des temps, mais c'est une fausse idée.
Il y a quelque chose comme cela, en effet, de l'ordre d'une... Enfin, je considère que le féminisme a produit une mutation anthropologique en permettant aux femmes de devenir enfin des individus comme les autres, et notamment en leur permettant d'entrer dans la démocratie. On mesure pas bien dans cette histoire le rôle et la centralité des droits reproductifs. Quand on touche à ces droits, comme ce fut le cas avec la Cour suprême états-unienne en juin 2022, quand on remet en cause la garantie fédérale du droit à l'avortement, c'est pas seulement la liberté des femmes de disposer de leur corps qui est touchée, mais c'est aussi la définition même des femmes comme des sujets de droit, c'est-à-dire comme ayant pleinement leur place dans le système démocratique. Parce que comment considérer que les femmes puissent être aussi libres et égales que les hommes si elles doivent subir des grossesses à répétition ou si elles prennent le risque de mourir des suites d'un avortement clandestin? Donc en s'attaquant à ces droits des femmes d'abord, mais aussi des personnes LGBTQI, en fait on s'attaque aussi à la démocratie.
C'est un ouvrage passionnant, Camille Frodo-Métry, que vous avez dirigé aux éditions du Seuil, Théorie féministe, et je le disais en introduction, passionnant parce qu'il traverse l'histoire, parce qu'il permet aussi d'entremêler, de décortiquer un ensemble impressionnant de théories féministes et de théories qui sont liées à ces théories féministes. Justement, quel est le point commun peut-être entre les pionnières médiévales de la liberté de penser et les propositions intersectionnelles LGBTQI+. J'ai pris ces deux exemples exprès, mais dans le fond, qu'est-ce qui lie entre elles l'ensemble de ces théories ?
Alors, un petit point d'histoire tout de même pour dire que ces pionnières médiévales ne sont pas définies dans le livre comme des féministes, ni même comme des proto-féministes. J'ai tenu à ce que, en toute bonne rigueur historique, on ne parle de féminisme qu'à partir du moment où il émerge comme courant, c'est-à-dire à partir de la seconde moitié du 19e. Mais j'ai tenu également à ce que le livre s'ouvre avec ses textes sur ces pionnières médiévales, puis ces femmes de lettres de la Renaissance et jusqu'à celles qui étaient engagées dans la rupture révolutionnaire, parce que ce sont des femmes qui ont porté ce qui a rendu ensuite possible la rupture féministe, à savoir le principe de l'autonomie intellectuelle des femmes. Ce sont des femmes qui ont revendiqué leur liberté de penser et leur liberté de création à un moment où elles en étaient complètement dépourvues. Et ce n'est qu'une fois cette autonomie intellectuelle conquise que les féministes du 19e siècle ont pu réclamer les droits civils et politiques. Mais pour répondre à votre question, le fil rouge de toute cette histoire, c'est d'abord l'objectif, c'est-à-dire renverser l'ordre patriarcal du monde, et c'est ensuite un certain nombre de méthodes et de thématiques qui s'articulent les unes aux autres et qui font système, qui font même constellation. Alors parfois dans des versions et des propositions différentes, voire antagoniques, voire conflictuelles, mais de mon point de vue, c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, on n'a jamais reproché aux théoriciens utopistes, marxistes, socialistes, communistes, trotskistes l'inanité de leur projet égalitaire au motif qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Eh bien, de mon point de vue, le féminisme participe de cette même ampleur en tant que projet politique de transformation globale de la société.
Effectivement, parce que ce que vous expliquez dès l'introduction, c'est que le féminisme, c'est bien plus que des combats, c'est bien plus que des conquêtes. C'est un projet d'ampleur qui vise, rien de moins, dites-vous, que la réinvention de notre monde commun. C'est bien plus que cela, donc bien plus que des conquêtes.
Oui, et puis ça concerne bien plus que les seules femmes et même bien plus que les seules personnes appartenant à des minorités. Je crois que c'est véritablement peut-être même une doctrine politique, et je vais aller un peu plus loin. Moi, il me semble que c'est la proposition théorique qui est aujourd'hui la seule conséquente dans une perspective progressiste. Parce que s'il y a bien quelque chose dont on se rend compte, hélas, aujourd'hui en France, c'est que les projets dits progressistes ont tous, d'une certaine façon, parce qu'ils ont oublié assez largement, justement, cette question des droits des femmes et des personnes LGBTQI, ces projets ont tous failli, sont tous aujourd'hui ultra fragilisés, pour ne pas dire en voie de disparition. Et je pense que le féminisme, en tant que doctrine politique, est la proposition qui se substitue aujourd'hui à ces anciens projets égalitaires.
L'autre grand point commun de ces doctrines, de ces pensées, c'est peut-être qu'elles ont pour point commun le corps, et le corps également pour objectif. Je voudrais vous faire entendre une archive datant de 1976 et la voix d'Annie Leclerc, une philosophe. Elle était l'invitée d'Interactualité.
Ce qui a été le plus rejeté dans nos sociétés, c'est le corps en général. Notre culture, et ça tient très certainement à d'autres raisons, se fonde sur la répression du corps. Seulement, il se trouve que dans la mesure où les femmes sont aussi, et pour des raisons complexes, privées de la parole, je pense que, d'une certaine façon, les femmes ont moins quitté, et c'est peut-être ça qui est paradoxal, ont moins quitté leur corps que les hommes. Et qu'elles sont plus en mesure d'affirmer et de parler, si elles se mettent à parler, des choses du corps que les hommes. Mais je ne crois pas du tout qu'elles ne doivent parler que de ça ou sur ça, sur le corps. Je pense bien au contraire que la parole féminine doit avoir toutes les prétentions. Il n'y a pas de domaine qui lui soit réservé, comme on essaie de nous le dire. C'est pas vrai, elle n'a pas à parler que d'affaires sensibles, de douceur. Elle a à parler de tout.
J'ai trouvé ça très profond, cette phrase-là en particulier, Camille Froide-Vaumétry. Les femmes ont moins quitté leur corps que les hommes. Comment est-ce que vous-même vous l'interprétez, et peut-être comment est-ce que vous la faites vôtre ?
J'irai un tout petit peu plus loin encore, Candy Lebrun, en disant que les femmes n'ont longtemps été que des corps, puisqu'elles ont été assignées à leurs fonctions corporelles et principalement à leurs fonctions sexuelles et maternelles, et qu'elles n'ont pu se penser et s'éprouver dans leur vie quotidienne et dans la vie sociale en général que par le truchement de leurs conditions incarnées. C'est d'ailleurs, selon moi, ce qui définit le féminin. Le féminin, c'est un rapport à soi, aux autres et au monde, qui passe nécessairement par le corps et qui est de ce fait déterminé socialement et notamment en but à des discriminations et des violences. Donc il y a dans la condition féminine patriarcale, telle qu'elle a traversé l'histoire, quelque chose qui a à voir avec un enfermement des femmes dans leur corps et donc du coup aussi, évidemment, dans leurs existences vécues, quelque chose, enfin un grand souci et un grand savoir aussi sur leur propre corps. Simplement, ce qu'elles réclament, ce que les féministes ont réclamé, c'est de n'être pas que des corps, d'accéder au statut moderne de sujet, de droit et de sujet autonome, et c'est passé par un certain nombre de propositions, dont certaines consistaient à tenir très très loin ces dimensions incarnées de l'existence, ou d'autres au contraire, à les mettre en avant et à les exalter. Mais dans les deux cas, il s'agissait d'élargir en quelque sorte la condition féminine à une condition moderne d'individu.
Comment est-ce que l'on fonde une philosophie à partir d'expériences, et notamment à partir d'expériences corporelles, la maternité, les règles, la sexualité, la ménopause également? Comment est-ce que ces moments-là de la vie d'une femme peuvent permettre de dessiner les contours d'une pensée féministe?
Alors, je dirais que le propre de la pensée féministe, ou des pensées féministes, c'est de renverser à la fois la méthode traditionnelle qui a été celle de la philosophie à travers les siècles, mais aussi les objets dont se saisit la philosophie. Pour ce qui concerne la méthode, les penseuses féministes refusent l'obsession de l'abstraction et refusent aussi la position de surplomb du philosophe homme-individu pour défendre une démarche qui est à la fois collective et circulaire, parce qu'il s'agit de penser ensemble à partir de soi, et c'est là que sur la question des objets, les féministes viennent introduire une vraie rupture épistémologique, puisqu'elles se saisissent de tous ces thèmes qui, historiquement, étaient considérés comme indignes, voire infâmes, et c'est-à-dire aussi impensables.
Je voudrais juste, je me permets de vous couper juste pour citer justement un extrait de votre ouvrage sur cette question. Vous écrivez « Le récit de soi vient ainsi se mêler aux voix d'autres femmes, qu'elles soient philosophes ou sujets d'enquête, pour explorer ce qui, dans la singularité de ce qui est vécu, fait sens au-delà de soi. La forme de vérité recherchée n'est pas celle qui serait donnée d'en haut par une voix soi-disant neutre et universelle, mais une vérité située qui ne se saisit que dans un contexte au sein duquel elle apparaît. » Fin de citation. On sent là les prémices d'une philosophie qui se construit, vous l'avez dit, collectivement et qui part toujours d'une vie vécue.
Oui, parce que s'il y a bien quelque chose que les féministes ont compris immédiatement, si je puis dire, c'est que le projet républicain universaliste était construit sur un certain nombre de principes, mais qui n'étaient que des principes, c'est-à-dire de belles constructions intellectuelles qui n'avaient rien à voir avec ce que les femmes et toutes les personnes opprimées vivaient dans leur quotidien. La prise en considération de la singularité des expériences vécues, le souci pour la façon dont les personnes éprouvent leurs propres conditions, incarnées notamment, alors celles des femmes, mais il faut le dire aussi, on n'en a pas encore assez parlé, c'est-à-dire de toutes les personnes que j'appelle les personnes féminisées, c'est-à-dire les personnes qui sont réduites justement à leur corps, soit à certaines de leurs caractéristiques corporelles, les personnes racisées, les personnes handicapées, les personnes malades ou les enfants, soit parce que elles portent des modes de vie antagoniques, voire contestant l'ordre hétéronormé de la société, les personnes LGBTQI+, évidemment. Et donc, les femmes et les personnes féminisées, c'est-à-dire toutes ces catégories, et ça fait beaucoup de monde, qui sont enfermées dans une forme de carcan corporel, c'est-à-dire qui ne sont plus définies que par leur corps, ses fonctions ou ses caractéristiques, ont pour projet, en fait, de s'affranchir de ce carcan. Mais c'est pas simplement repérer et dénoncer les mécaniques patriarcales par lesquelles on assigne ces personnes à un certain nombre de rôles et par lesquels on les empêche aussi d'assumer d'autres rôles au sein de la société. C'est aussi des propositions. C'est-à-dire que il faut vraiment toujours répéter que le féminisme, ce n'est pas que de la dénonciation ou du combat. C'est aussi un vrai projet politique dans le sens où il est fait d'alternatives, de propositions et d'inventions, même, j'irais jusque-là, ou de réinventions, comment, par exemple, on réinvente aujourd'hui la conjugalité, la parentalité, comme on réinvente les masculinités.
Justement, sur cette traduction, Camille Froide-Vaumetri, que faire des hommes dans cette affaire? Vous défendez vous-même ce que vous appelez un féminisme des alliances. Qu'est-ce que cela signifie très concrètement? Et j'allais dire même du point de vue philosophique avant cela.
Cette formule d'un féminisme des alliances, c'est la philosophe Marie Garraud qui l'a utilisée dans la conclusion qu'elle donne, la très belle conclusion qu'elle donne à cet ouvrage. Il s'agit de considérer, et là on revient à cette ampleur et à ce caractère englobant du féminisme, que les luttes féministes, en fait, ne visent pas simplement à libérer les femmes, mais qu'elles visent à libérer nos sociétés de toutes les oppressions. Et que parmi celles-ci, il y en a qui concernent les hommes. Les hommes qui sont directement opprimés pour par exemple contrevenir à la loi hétéronormée, comme par exemple les homosexuels, mais plus largement les hommes qui ne rentrent pas dans les cadres. On voit bien comment, par exemple, aujourd'hui dans nos sociétés néolibérales, l'exaltation d'un modèle de masculinité hyper viriliste fait florès auprès des plus jeunes notamment. On voit bien comment on propose de plus en plus aux jeunes hommes des modèles d'existence qui sont tout simplement un retour en arrière à ce que le patriarcat a produit de plus rigide et de plus opprimant. Je veux dire, toutes ces injonctions à la performance, à l'excellence, à la puissance, à la force, c'est autant de carcans qui peuvent enserrer les jeunes hommes notamment. Mais plus que cela encore, le fait de réfléchir à ce que c'est que d'être un allié, ça nous permet aussi de penser comment politiquement notre projet peut continuer de progresser, si je puis dire, à un moment, celui que nous vivons aujourd'hui, où nous subissons un fort coup d'arrêt qui se traduit par plein de phénomènes, mais notamment par l'enracinement de gouvernements avec des programmes réactionnaires, voire fascisants. Toute la question, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de la déplier, c'est celle de savoir qu'est-ce qu'être un allié et quelles sont les conditions pour l'être.
C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qu'être un bon allié? J'allais vous demander même d'une façon presque plus directe. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour un homme être un bon féministe, être un bon allié des féministes? Est-ce que c'est prendre le micro pour porter le combat comme certaines militantes le font, ou bien d'une manière beaucoup plus micro à l'échelle de sa propre vie, de sa propre vie intime, avancer doucement et tenter d'être féministe à sa propre échelle?
Ça commence en effet, non pas par prendre la parole, mais par l'inverse, c'est-à-dire se taire et écouter. Écouter les femmes, écouter les féministes, faire l'effort de s'informer pour savoir de quoi nous parlons quand nous mobilisons ces concepts de patriarcat, d'emprise, de continuum des violences. Et puis ensuite, faire cet effort au quotidien de mettre en application en quelque sorte les principes et les ambitions féministes, lutter contre ce qu'on appelle le sexisme ordinaire, ne pas laisser ses camarades de travail ou de loisirs dire des petites phrases sexistes sans réagir, et puis pourquoi pas s'impliquer davantage, pourquoi pas évidemment participer concrètement à nos combats, mais je dirais plus encore peut-être avoir ce souci de produire soi-même en tant qu'homme féministe des outils pour les autres hommes féministes, et avoir ce souci quand on s'engage et que l'on commence peut-être de produire, d'écrire, de réfléchir en homme féministe, ne jamais oublier tout ce que l'on doit en tant qu'homme féministe aux femmes féministes ou aux personnes féministes, et notamment à toutes les autrices qui, avant les hommes d'aujourd'hui, ont réfléchi et pensé toutes ces questions. Moi, ça me désole toujours de voir que certains chercheurs qui portent des ouvrages féministes le font comme si personne avant eux n'avait réfléchi à toutes ces questions. Je crois que c'est quand même le béaba quand on est un homme féministe que de rendre fémage aux autrices et aux féministes qui ont permis avant eux de penser et d'agir.
Une critique est adressée à ce féminisme des alliances, et il est adressé par ailleurs par des féministes qui expliquent qu'elles n'ont pas besoin des hommes dans le fond pour mener leur combat, pour vivre leur vie. Comment est-ce que vous accueillez vous-même, j'allais dire, cette critique qui est importante par ailleurs?
Oui, je l'accueille comme une option possible dans le champ de la pensée et des luttes féministes. C'est-à-dire, il y a des femmes qui peuvent se passer des hommes qui s'en passent très bien, et pourquoi pas. Il y a des féministes, et je dirais presque toutes les féministes, qui ont besoin, et encore aujourd'hui, de travailler et de lutter en non-mixité. Mais il me semble que la non-mixité n'est pas incompatible avec le féminisme des alliances. Je crois que c'est des démarches qui peuvent s'articuler. Et puis, je dirais que c'est un petit peu... Alors, là, comment dire, il faut être attentif à ne pas tirer contre son propre camp. Si c'est bien un des objectifs de l'ouvrage, c'est de montrer que par-delà les dissensions et la conflictualité, nous visons toutes et tous le même objectif. Et je crois que nous ne sommes pas de trop pour mener à bien ce programme féministe. Non seulement nous n'avons pas trop de théorie, mais même nous n'avons pas trop de lutte et d'alliés pour renverser l'ordre patriarcal du monde.
Un autre extrait, une autre phrase importante du livre sur les alliances. Les alliances sont des espaces de confrontation avec la différence dans lesquels peuvent à tout moment ressurgir les rapports de pouvoir que l'on combat. Fin de citation. Alors expliquez-nous justement ce qui se loge dans le cercle de ces alliances que vous dessinez.
Ce qui s'y loge, c'est-à-dire ce qui...
En quoi justement les alliances, puisque ça peut être paradoxal à première vue, peuvent être aussi des espaces de confrontation avec la différence?
Comme toutes les coalitions féministes, des alliances entre femmes et hommes féministes sont des endroits où circulent, mais au sens vraiment de la circularité, à la fois la pensée et puis les propositions. C'est bien quelque chose que les féministes s'efforcent de faire, pas toujours d'ailleurs, enfin je veux dire que c'est pas facile de le faire, c'est d'écouter et de croire. Et c'est un impératif qui vaut pour toutes les personnes. Nous avons beaucoup appris, nous, femmes féministes, des théories et des luttes des personnes LGBTQI. Nous pouvons considérer que par certains aspects, peut-être, les hommes ont des choses aussi à apporter dans le champ de la réflexion. Et d'ailleurs, certains le font, qui sont cités dans ce texte, mais avec toujours ce souci de se tenir dans une forme de posture, j'allais dire, d'humilité ou simplement d'égalité.
Comment est-ce que vous avez construit, Camille Freud-Vaumetry, cet ouvrage, une somme impressionnante, on le rappelle, avec énormément d'autrices qui ont été mises à contribution, une foule de thèmes, d'entrées, de points didactiques. Comment est-ce que l'on dirige un ouvrage collectif comme celui-ci pour faire en sorte tout de même qu'il soit cohérent? Est-ce que c'est une petite démocratie organisée où il a fallu à un moment, prendre des directions, des décisions de directrice?
C'est les deux, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai commencé de réfléchir à un premier sommaire prévisionnel. J'avais construit un plan avec une cinquantaine d'entrées. Je suis partie à la recherche des personnes susceptibles d'écrire ces textes. Et une fois que je les ai eues réunies, nous avons organisé une série de réunions en visio où nous avons discuté ensemble sur la base de ce sommaire. Et ça a été des discussions absolument passionnantes et surtout très fructueuses, puisqu'on est passé d'une cinquantaine d'entrées à 130 et qu'on a quasiment doublé, on a doublé le nombre d'auteurs jusqu'au moment où au seuil on m'a demandé de m'arrêter, mais je pense qu'on aurait pu continuer encore un peu. Et c'est donc en essayant de construire collectivement et de façon circulaire ce sommaire que finalement on est arrivé à cette somme monumentale, parce que j'ai évidemment pas la prétention de connaître tout du champ des idées féministes, et j'ai appris beaucoup de choses dans ces discussions. J'ai moi-même découvert des champs de pensée que je ne connaissais pas, des autoristes que je ne connaissais pas.
On demandera peut-être alors au seuil d'aller au-delà des 130 entrées pour un second volume. Merci en tout cas énormément Camille Freud-Vaumetry pour cet échange et pour l'apparition de cet ouvrage que vous avez dirigé, Théorie féministe au pluriel. Je le rappelle, c'est aux éditions du Seuil. Et merci également à celles et ceux qui ont fait cette émission. Rodi Eken, Bertie Bourdon, Roxane Poulain à la réalisation. C'était François Richer et Alexandre Dang ce soir à la technique.